Mesdames et messieurs, deux mots seulement de bienvenue à l'assistance, de bienvenue bien sûr aux écrivains indiens qui sont parmi nous, également à la responsable de la table ronde qui va animer cette table ronde ce soir. Et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir monsieur l'ambassadeur de l'Inde, monsieur Rakesh Sood, qui nous fait vraiment un grand honneur. Donc je rappelle simplement que la série de rencontres que la bibliothèque du Centre Pompidou, la BPI, organise s'articule évidemment à la grande exposition que vous avez certainement vue, que vous pouvez voir au Centre Pompidou, à l'intérieur du musée du Centre Pompidou, sur les différentes facettes de l'Inde d'aujourd'hui. Voilà, bonne soirée à vous et merci d'être venu.
Je fais une courte introduction en français. Les auteurs ont des casques pour entendre la traduction, si vous voulez bien en donner à monsieur l'ambassadeur pour qu'il entende. Et ensuite, la discussion entre nous aura lieu en anglais. La dernière décennie a vu l'émergence d'une nouvelle image de l'Inde qui, auparavant, pêchait beaucoup en France par son exotisme. La nouvelle image, c'est celle d'un pays extrêmement puissant qui est en devenir constant, et cette image de géant économique que nous commençons à avoir et qui est tout à fait juste ne devrait pas pour autant nous masquer l'énorme diversité qui constitue essentiellement la réalité humaine de l'Inde. Cette énorme diversité s'exprime bien entendu par tous ceux qui la peuplent, qu'ils soient de toutes les langues possibles et imaginables qu'on peut parler là-bas, il y en a 1635. Mais ce soir, nous avons affaire à un petit échantillonnage, pas tout à fait représentatif du middle stream, on va dire, de l'Inde, qui est celle de l'Inde qui circule depuis longtemps, qui circule à travers le monde, dont nos quatre auteurs sont des représentants. Parmi eux, Manil Suri, qui est à côté de moi, est parti de Bombay, qu'il a habité jusqu'à 20 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Il est parti étudier aux États-Unis, il est devenu professeur de mathématiques aux États-Unis et il est aussi devenu écrivain. En tant qu'écrivain, il a publié jusqu'à présent deux romans qui ont tous les deux été publiés en français. L'un s'appelle « The Death of Vishnu », « La mort de Vishnu », publié au Seuil en 2002. L'autre s'appelle Mother India en français, alors qu'en anglais il s'appelle The Age of Shiva, publié en France en 2008. Il en prépare un troisième, parce qu'il s'agissait au départ d'une trilogie, et finalement il aura rempli son contrat après quelques hésitations à rester sur le concept de trilogie. Et celui-là sera consacré à Devi. Mais mystère sur le contenu, peut-être qu'il vous en dira plus. Donc Manil vit aux États-Unis, il retourne à Bombay assez fréquemment chaque année, où il a encore de la famille, et chacun de ses auteurs vous dira, comme lui, la relation qu'il garde avec l'Inde, la relation dans son évolution, et à travers quelques questions, des petits faits et des feelings, facts and feelings, on essaiera de voir comment, dans quelle identité il se situe, sans vouloir en tirer des grandes conclusions, mais de telle sorte que vous en ayez chacun de vous en ait une image plus ou moins précise, juste de ces gens qui circulent et qui sont à la fois différents et très indiens. À côté de Manil, Kunal Basu, lui est bengali, il est né au Bengale, il a d'abord étudié au Bengale, puis lui aussi aux États-Unis. Il est l'auteur de quatre romans, four novels or three. L'un d'eux a été traduit en français, il s'appelle Le Miniaturiste, il est paru aux éditions Piquet, traduit par Simone Manceau qui se trouve dans la salle là-bas, et on espère beaucoup que les suivants le seront aussi. Il va publier très prochainement, à la fin du mois de septembre en tout cas aux États-Unis, un roman sur... Well, he will tell you about it. Prita Samarasan est une jeune femme très très intéressante et très atypique parce qu'elle a fait partie dans sa dans son enfance de la communauté indienne qui vivait qui vit encore mais plus enfin plus elle en Malaisie. Elle est née là-bas, elle a vécu dans sa famille là-bas. Elle est partie étudier aux États-Unis. Elle a étudié la musicologie. Elle est venue en France faire un travail sur la musique des Roms. Et la voilà qui vit en France, qui parle français et qui a épousé, je crois, un Britannique et qui vit dans le Limousin. Un Américain, sorry. Sudhir Kakkar. Alors Sudhir Kakkar, c'est très difficile de tout dire parce qu'il y a une liste énorme d'exploits tout à fait étonnants dans des domaines où on n'attend pas les écrivains indiens, qui est la psychanalyse. C'est le premier psychanalyste de l'Inde, en quelque sorte. Lui vit en Inde. C'est notre seul Indien vivant en Inde aujourd'hui, là, autour de nous. Il a étudié la psychanalyse à Francfort, où il a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse. Ensuite, il a été professeur associé dans de nombreuses universités du monde, en Australie, à Harvard et bien d'autres. Et il a écrit des ouvrages absolument fondamentaux sur la façon d'envisager le psychisme indien, qui ont beaucoup aidé, même les gens comme moi, au début j'étais en Inde, à comprendre un petit peu, pas beaucoup bien sûr, mais un petit peu, de quoi il était question. Ensuite, il a écrit de la fiction. Il écrit maintenant de la fiction. Ça correspond un peu à ce que Sudhir appelle son Vanaprastham, qui est le stade après le stade, si vous voulez, d'activité, ce que nous, on appellerait un peu la retraite. Sudhir, depuis quelque temps, vit à Goa et écrit de la fiction depuis un peu plus longtemps que ça. Il ne cesse pas d'en écrire. Il en a déjà écrit 4. Et presque toutes ses œuvres ont été traduites au seuil. Donc je ne vais pas en faire la liste. Disons que parmi les dernières, il y a une étude sur la folie et le divin chez Seuil. Et dans ces fictions, only one has been translated into French, right? One. Oh no, Miran de Mahatma. Ah, The Ascetic of Desire. Oui, oui. Alors dans le premier fiction, c'est un livre sur la vie de l'auteur du Kama Sutra. Et celui-là s'appelle L'Ascète du désir. Il a été traduit par Bernard Turl aux éditions du Seuil. Puis Mira et le Mahatma, aussi aux éditions du Seuil, par le même traducteur. Au nom de l'extase, par moi-même chez Seuil aussi. Donc ce sont des gens qui ont, vous allez le voir, des trajets extrêmement vivants, qui dépendent beaucoup d'eux-mêmes, qui ont fait des choix à travers toute leur existence, de rester, de partir, de revenir, d'être ici ou d'être là. Et à travers donc les questions que je vais leur poser, on va situer en quoi ils sont. Ils se sentent indiens, at home, everywhere, nowhere, somewhere. Let's try. The first question I will ask,
la première question que je vais poser
like to ask you is about language.
Concerne la langue. Les langues. Vous venez tous d'un endroit différent en Inde. Et votre langue maternelle est
Marathi,
respectivement Marathi no. Pour Mani, non?
Hindi.
Hindi.
So nobody was speaking Marathi in your house.
Personne ne parlait Marathi dans votre maison? J'ai étudié pendant 5 ans, mais je
n'arrive
pas à parler.
It, but at home,
vous avez étudié, mais à la maison, vous parliez
Hindi.
En quelle langue? Hindi.
And English.
Hindi et l'anglais à la maison. Kunan.
Your language is Bengali. You spoke Bengali. Bengali at home.
Vous parlez le Bengali à la maison, oui.
The whole family was.
Et toute la famille.
All the time.
No parlait English. Tout le temps, donc sans parler anglais. Non, pas du tout. On parlait pas du tout anglais. Donc, quand je grandissais dans la ville de Calcutta pendant les années 60. C'était
Prita,
pas acceptable de parler anglais.
Were you speaking Tamil?
Prita, est-ce que vous parlez tamil?
English and Tamil.
Yeah. L'anglais et le
so
tamil.
At home
tamil.
You were speaking tamil.
Donc vous parlez tamoul à la maison, oui.
Tamil
les deux, tamoul et
and
l'anglais.
Did you pepper this tamil
et
from
est-ce que
all
vous préfériez
words that you have in your book?
Est-ce que vous avez
you, in your book,
dans votre livre
the language you speak
et la langue votre langage
Malay words.
Et
yes.
Contient
like
des, par-ci et par-là
yes,
des paroles en malais.
I mean,
c'était comme ça à la maison aussi parce qu'en Malaisie, la langue tamoule que nous parlons,
speak,
À la maison, nous parlons en anglais et en tamoul, mais dans les écoles, on parle en malais, et je l'ai parlé à l'école, mais j'ai grandi dans une ville où tout le monde parlait le cantonais. Donc, c'est vraiment c'est une culture très mélangée, hybride, et je parlais beaucoup de langues différentes. Et les personnes avec qui vous parlez le malais à la maison, il y avait des gens à la maison qui parlaient le malais? Non, pas à la maison. Et Soudir, votre langue maternelle, c'est le punjabi, le panjabi.
And what about the way it was spoken at home?
Comment est-ce que vous la parlez à la maison?
By your father and mother.
Beaucoup parlé à la maison par mon père et ma mère.
And when did you stop?
Et quand est-ce que vous avez arrêté de parler votre langue maternelle?
J'ai jamais arrêté.
Je parle toujours. Mais quand vous êtes parti pour direction Allemagne,
Punjabi in my dreams.
Je parlais encore le punjabi dans mes rêves.
So, Prita, what about
donc Prita, où en est-il par rapport à votre langue tamoule? Est-ce que vous rêvez en tamoule?
Non.
Je jure peut-être en tamoule. Et peut-être parfois je rêve, mais parce que je suis tamoule, quand mes parents parlent, toute la phrase est mélangée entre le tamoule et l'anglais. Donc il n'y a pas de phrase quand ils parlent qui est purement tamoule. Donc, c'est un peu ma langue maternelle, c'est mélangé, c'est ce mélange entre l'anglais et le tamoul.
Et
Konal, par rapport au bengali, est-ce que vous pratiquez beaucoup parce que vous retournez souvent en Inde? Oui, je suis écrivain bilingue. Tous mes écrits, mes premiers écrits étaient en langue bengali. J'ai résisté à l'anglais pendant beaucoup de temps. Mes parents voulaient me proposer des livres. Ma mère était écrivain, mon père était éditeur. Et ils proposaient des livres en anglais que je devais lire, mais j'ai résisté. Et je lisais tout le temps la traduction bengali. Et je croyais que Victor Hugo était bengali parce que je l'ai lu dans cette traduction. Et je pense que c'était assez tard pendant mes années à l'école où j'ai commencé à comprendre l'anglais, mais je suis quelqu'un qui pratique de façon bilingue. J'écris en bengali, je fais des commentaires à la télévision en bengali en Inde, et je voudrais écrire un roman en bengali aussi. Donc vous avez anticipé ma question, qui est est-ce que vous avez ou est-ce que vous écrivez actuellement quelque chose dans votre langue maternelle, Soudir, Kakar? Non, parce que quand je grandissais, c'était l'époque coloniale. Donc, nous avons étudié à l'école en anglais, tout était en anglais. L'histoire britannique et tout ce qui avait trait à la Grande-Bretagne et à l'Europe. Donc, nous avons commencé cette éducation occidentale très jeune. Et c'était l'anglais, tout était écrit en anglais. Prita, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Non, je ne peux pas lire et écrire le tamoul, simplement le parler. Et c'est une forme très vraiment parlée. Et donc vraiment, c'est pas possible. J'aimerais bien apprendre un jour. Quand je faisais mes études de psychanalyse en Allemagne, vous avez vraiment envie de comprendre la langue. Et c'est la seule fois où j'ai écrit des nouvelles en allemand. Mais c'est la seule fois. Ça, c'est très intéressant. Et Manil, est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose en hindi? Une lettre, oui. J'ai mis beaucoup de temps. C'était pour ma tante. Elle parlait que seulement le hindi et le punjabi, mais je n'arrivais pas à écrire en punjabi. Mais je l'ai écrit en hindi et quelqu'un l'a lu. Mais pour revenir à ce que dit Kunal, c'est-à-dire que c'est une idée radicale de parler en anglais à la maison. Je pense qu'à Bombay, où j'ai grandi pendant les années 60 aussi, c'était très différent. Parce que à Bombay, on parle 4 langues. Et puis, vous parlez en plus de langues. Et puis, il y a une forme très spéciale de hindi à Bombay, qui est un mélange de tout. Et les gens du nord à Delhi n'aimeraient pas parler cette langue, parce que ce n'est pas agréable à entendre. Et c'est pour cela que j'ai jamais parlé très couramment le hindi. Quand j'écrivais, quand je lisais, c'est tout en anglais. Mais vos parents parlaient hindi? Non, ils parlaient en punjabi.
Donc je peux comprendre le Punjabi, mais je ne peux pas vraiment le parler parce que quand il me parlait en hindi, à moi en hindi et l'un à l'autre en Punjabi. Donc je devinais tout le temps ce qu'il disait. Donc pour clarifier, les années 70 également, à Calcutta, il y avait toujours de l'anglais partout. J'étais dans une école anglophone aussi, mais il y avait un choix politique quelque part. C'est-à-dire que pendant les années 60, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait le mouvement des étudiants dans le quartier latin ici, par exemple. Il y avait les manifestations contre la guerre au Vietnam qui se passaient aussi à Calcutta. Donc, c'était presque un choix politique. Oui, nous parlons l'anglais, mais nous sommes fiers d'être bengali. Et c'est la langue que nous voulons utiliser pour écrire et pour communiquer et pour communiquer nos pensées intimes. Mais l'anglais était toujours présent. Donc, maintenant, vos livres sont principalement, vos grands livres, en anglais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas abandonné le bengali, mais quelque part, j'aimerais croire que tous les romans que j'ai écrits sont écrits en anglais pour que les gens le lisent. Mais il y a une langue quand même sous-jacente, qui c'est autre chose. Par exemple, le miniaturiste, que si Simon Manso a traduit vers le français, j'aimerais croire que ce roman est écrit dans le dialecte ourdou de l'anglais. Par exemple, le Japanese Wife, le recueil de nouvelles. Beaucoup de ces nouvelles sont basées à Bengale. Mais j'aimerais que vous puissiez croire qu'il y a comme un dialecte sous-jacent bengali. Est-ce que c'est détectable sous l'anglais? J'espère. Dernièrement, j'ai écrit un roman sous la Chine, et moi, je ne parle pas chinois, mais j'espère que le roman ne semble pas étranger à quelqu'un qui parle chinois. Je pense que vos traducteurs doivent travailler très dur. Donc, j'ai parlé des langues. Et il y a autre chose pour vous, Preta. Quand vous viviez en Malaisie, est-ce que vous aviez l'impression, qu'est-ce que vous sentiez pour la langue là-bas? Parce que le père de votre personnage principal fait partie de la destinée du pays. Donc, dans votre cœur, comment vous sentiez par rapport à cette langue? Qu'est-ce que vous avez pris de cette expérience? C'est vraiment une question très compliquée à cause de la situation politique. En Malaisie, la Malaisie a une société divisée au niveau racial, avec beaucoup de bénéfices pour la majorité ethnique. Donc, ça veut dire que nous nous identifions comme Indiens ou Chinois. Personne n'a jamais utilisé le mot malaisien quand j'ai grandi en Malaisie. C'est seulement en quittant le pays que j'ai dit « je viens de la Malaisie ». C'est même vrai aujourd'hui, je pourrais dire même que c'est vrai pour des minorités ethniques en Malaisie, que vous grandissez en ayant ce sentiment d'être étranger, mais en même temps, vous êtes dedans, en même temps. Par exemple, mes parents, elles me disent que c'est notre pays, mais il n'y a rien ici pour nous. C'est ce genre de sentiment. Donc, vous pouvez dire que c'est pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment à la maison. Oui, on est à la maison parce qu'on n'a pas d'autre maison. Il n'y a pas d'autre endroit où je me sens plus à la maison. Mais il y a ce sentiment constant quand même quand on ne veut pas de vous. Vous avez l'impression d'appartenir, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Donc, c'est vous qui... Vous tendez les mains vers les gens, mais ce n'est pas réciproque. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pensez que c'est être à la maison... Est-ce que vous pouvez avoir plusieurs maisons? Est-ce que vous vous sentez à la maison dans beaucoup d'endroits ou des endroits divers? Moi, je pense que quand je suis aux États-Unis, je parle tout le temps de rentrer à la maison quand je pars, mais c'est plutôt une figure. C'est une association, c'est-à-dire je pars à la maison, c'est une figure, c'est quelque chose dans la langue parlée. Mais en termes de mes sentiments, où je me sens à la maison, personnellement, je ne passe pas assez de temps en Inde pour pouvoir dire que je me sens à la maison en Inde. Je me sens à la maison plus aux États-Unis. Et Kunan, quand je suis en Inde, j'ai l'impression que je n'ai jamais quitté l'Inde. L'Inde vous consomme. Dès que l'avion atterrit en Inde, mes souvenirs sont effacés. Dès que j'arrive en Occident, même si j'ai passé une semaine seulement en Inde, même après 25 ans de vie à l'étranger, j'ai un choc culturel. Je regarde et je dis, mais c'est qui ces gens? Ils ne me ressemblent pas, ils parlent d'autres langues. Et j'ai eu des problèmes tout de suite avec mon anglais. Je ne peux jamais donner des réponses à la douane. Je n'arrive pas à construire une bonne phrase pour la première personne. Mais les êtres humains, l'être humain est très bizarre. Au bout d'une semaine passée à Oxford, le confort des choses que familières autour de moi fait en sorte que je me sens à la maison. Et je pense que c'est vrai d'être à la maison en plusieurs endroits. Parce que la maison, votre maison, c'est là où se trouve votre passion. Et si votre passion est sédentaire, vous avez une maison. Mais si votre passion se déplace comme dans mes écrits, j'ai écrit par rapport à beaucoup d'endroits, beaucoup de scènes, beaucoup de gens différents. Et vous avez résidé dans beaucoup d'endroits. Est-ce que vous sentez à la maison partout? Non. Dans les États-Unis du Sud, non. Surtout parce que je faisais mon doctorat. Et quand vous faites votre doctorat, vous ne vous sentez jamais à la maison. C'est une expérience très déstabilisante. Mais dans la ville de New York, oui. Je me sentais à la maison. À Oxford, encore plus. Oui, plus, je dirais, que dans d'autres endroits. Et Peter, la France, qu'en est-il? Soyez libre. Non, je ne me sens pas à la maison en France. Je n'ai pas juste de l'attendre parce que je suis là que depuis 5 ans. Donc, je pense que ce n'est pas juste de me demander de me sentir à la maison. Mais de toute façon, je ne me sens pas vraiment à la maison où que ce soit, mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas vraiment de maison. Et je me sens attachée à cette idée de ne pas avoir de maison. Parce que je pense que c'est le fait de ne pas avoir de maison qui fait que j'aperçois beaucoup plus de choses. J'ai cette attirance pour la Malaisie. Et peut-être que les gens vont l'interpréter comme un sentiment d'être à la maison. Mais pour moi, ce n'est pas ce genre de sentiment. C'est juste cette idée que la Malaisie a beaucoup d'associations, beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais je ne peux pas vraiment dire que je me sens à la maison. Je me sens étrangère. Mais aussi aux États-Unis, j'étais pendant 14 ans, mais je me sentais étrangère. Et ça fait que j'ai toujours les yeux ouverts. Ça me protège et j'aime ça. Donc, au Jaipur Festival, il y avait quelqu'un qui était portoricain. Non, dominicain. Un américain, un écrivain américain dominicain qui a parlé des patries imaginaires. Et la plupart des orateurs avant lui parlaient de comment leur patrie, c'était le pays dont vous rêvez parce que vous êtes en exil ou peut-être c'est le pays où vous êtes. Et après, il a dit, mais lui, il a dit que la patrie peut être n'importe où. Ça peut être un monde imaginaire, un monde dans un roman. Ça peut être n'importe quoi qui pour vous a une signification symbolique forte. Est-ce que c'est vrai pour vous? Je suppose que maintenant que j'ai ma famille, mon mari et ma fille, c'est eux, ma maison. Et ils voyagent avec moi. Et ça peut sembler superficiel, mais mes choses, mes biens, je suis attachée aux objets. Et c'est bizarre peut-être, mais quand je pense à la maison de mon enfance, je pense à des choses tangibles. Et ces objets tangibles représentent pour moi ce sentiment d'être à la maison. Sudhir, vous avez habité souvent dans des endroits différents. Qu'en est-il pour vous, ce sentiment d'être à la maison? Je pense qu'il y a une différence parce que j'habite en Inde. Et quand j'arrive ici à l'étranger, je pense que c'est dimanche parce qu'il n'y a personne dans la rue. Mais ce qui se passe, c'est que l'Inde et l'Occident, dans ce sens de l'Europe, deviennent... C'est comme un fils indien qui se marie. Il aime l'épouse et aime la mère. Mais il y a des conflits qui commencent. Et comment est-ce qu'il traite ce sujet? Il se détache un peu des deux. Donc moi, je me suis détaché un petit peu et de l'Europe et de l'Inde. Donc je suis un résident non indien. Et cette affaire de la maison nous amène vers une autre question. Par exemple, Sudhir, vos deux enfants habitent aux États-Unis maintenant. Et quand vous avez étudié en Allemagne, est-ce que vous avez cette certitude, une idée du fait que vous allez retourner en Inde ou est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir rester à l'étranger? Oui, mais il y avait des tentations de rester. Ça dépendait de ce qui se passait à l'époque. Eh bien, mais j'étais presque certain de retourner en Inde. Donc, j'avais souvent ce sentiment que j'allais retourner. Donc, Prita, vous avez quand même répondu déjà à cette question. Vous n'avez pas cette question de devoir partir pour aller à un autre endroit. Oui, j'ai cette impression que je dois retourner en Malaisie souvent. Et comme Manil a dit, je retourne à la maison. Mais c'est une manière de parler. Et pour moi, ce n'est pas ma seule maison.
Et Kunal,
Sushmita, ma femme est là. Nous avons une fiction pratique pour nous. C'est comme si nous n'étions jamais partis de l'Inde. Nos valises sont très lourdes, vous savez. Nous emmenons l'Inde avec nous et nous sommes partis il y a 25 ans. Et parce que nous voyageons, et comme nous voyageons, nous n'avons pas peur de partir. Et ensuite de revenir en Inde où les personnes pensent que nous sommes étrangers. Je n'ai pas l'impression d'appartenir à une minorité où que je sois. Je peux voyager, voir la Tour Eiffel. Je pense que c'est inhérent à notre vie. Lorsque nous habitons dans différents pays, différents mondes, d'avoir de nouvelles expériences et de les trouver passionnantes. Souvent, je pose la question.
Manil is an NRI, and in the West, is because I don't see myself as
en Occident, pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression d'appartenir à une diaspora? C'est la fiction de notre vie. Nous voyageons, nous découvrons des nouveaux mondes, et nous avons une certaine distance, un certain recul. Nous pouvons observer les nouvelles choses et rester toujours sur nos gardes. Je ne sais pas de combien de temps je vais continuer à voyager comme cela. J'aime bien voyager. Vous avez posé la question si j'avais pensé revenir. Et lorsque j'ai eu un entretien pour obtenir mon visa il y a très longtemps, il y a 22 ans, j'ai dû inventer une histoire pour convaincre cet officier que j'allais retourner en Inde, que vraiment j'étais pressée de repartir, parce que peut-être il y aurait des problèmes à la maison. Et quand je suis allée aux États-Unis, j'avais l'impression de, en fait, rentrer chez moi. J'avais l'impression que c'était là que j'aurais dû être née. Et quelques années plus tard, ceci m'a obsédée. J'avais quelqu'un dans ma vie qui était aux États-Unis. Et ce qui m'a ramenée en Inde, c'était l'écriture. J'ai commencé à expérimenter avec différents types de fiction. Et seulement, avec mon premier roman, tout ceci, je me suis rendu compte que c'était mon destin d'écrire. Ensuite, je retournais en Inde voir mes parents. Et au fur et à mesure, je revivais mes souvenirs. Lorsque ce livre a été publié, je revenais en Inde, je rencontrais des nouvelles amies. Tout a été dynamisé. J'ai l'impression d'avoir redécouvert mon pays à travers l'écriture et la fiction. Et vous pensez retourner en Inde pour y habiter? Non, juste pour rendre visite. Alors, vous me donnez la transition avec la suite, la relation d'être expatrié, de voyager, la relation entre votre statut d'expatrié et votre fiction, votre écriture. Tous vos livres sont sur des endroits différents, des temps de la vie différents, Kunal. Mais comment, la première fois, avez-vous commencé à écrire? Et le fait d'être à l'extérieur de votre pays, qu'est-ce que cela a apporté à votre écriture? J'ai toujours voulu écrire. Ma mère était une auteure au Bengale, mon père était éditeur. Il y a eu toujours du monde à la maison, des auteurs, des gens du monde de l'édition. Et j'ai grandi dans les années 70, c'était une expérience très différente de l'Inde aujourd'hui. Il n'y avait aucun emploi. Il y avait peut-être que 30% de taux d'emploi. Et donc, je ne pouvais pas imaginer de devenir ingénieur. Je ne veux pas insulter qui que ce soit dans le public, mais je réfléchis à des choses comme ça et je les écartais tout de suite. Et j'ai dû revenir vers ce que j'aimais, ce qui était l'écriture. Et je sais que ceci est arrivé à un moment dans ma vie où je n'ai pas dû m'inquiéter de ma façon de vivre. C'est-à-dire, je pouvais vraiment m'engager complètement dans l'écriture, devenir un auteur, et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, la fiction, mon imagination m'emmène dans d'autres pays. Le livre que je viens de terminer est sur un docteur portugais qui recherche à guérir la syphilis. Ce n'est pas sur l'Inde. J'ai écrit sur un scientifique français et anglais qui réfléchissent à l'origine, sur l'origine du racisme. La moitié de mes romans sont en Inde. Et ce que je pense, c'est qu'il y a un différent rapport entre mon écriture et l'Inde. Vous avez écrit des histoires courtes où qui sont donc en Inde, mais il y a des étrangers et des personnes qui viennent de l'extérieur dans ces nouvelles. Il y a deux points importants. L'Inde m'a donné des idées pour écrire de grandes histoires avec des personnages dans des contextes. J'étais dans un contexte changeant. Cet amour pour les grandes histoires est quelque chose qui m'a été infusé quand j'étais petit. Et la deuxième chose que l'Inde m'a donnée est l'amour pour l'étranger, l'autre personne, cette personne que je ne connais pas, l'inconnu. Cet aspect de l'écriture romantique indienne qui était à la fin des années 80, dans les années 90, c'est ce qui m'a rendu un auteur indien. Prita, qu'est-ce qui vous pensez, selon vous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? C'est mon premier livre que j'ai terminé et je travaille sur le deuxième maintenant. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire? J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de livres, j'ai toujours lu. Et je ne peux pas dire à quel moment, mais à un moment, j'ai su que c'est ce que je devais faire. Quand j'étais petite, ce n'est pas comme Kunal, je ne connaissais personne qui écrivait, qui était déjà auteur. Je n'en parlais à personne. Mais vous lisiez beaucoup. Oui, j'ai beaucoup lu. Et j'écrivais déjà lorsque j'étais enfant. Mais je voulais devenir médecin. Et à un moment, je me suis réveillée, je me suis rendue compte que je ne voulais pas devenir médecin. Je me suis dirigée vers l'histoire de la musique. J'avais l'impression que c'était une transition vers l'écriture. Et les gens me demandaient, musicologie, c'est ton plan B? Puis j'ai écrit mes romans pendant les vacances d'été, vacances d'hiver, et je me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir professeur, je voulais devenir auteur. Ça a été pas à pas. J'ai pris beaucoup de temps pour décider que c'est ce que je voulais faire. Pourquoi vous vous êtes dirigé vers la musicologie? Le monde de la musique est un monde particulier aussi. Pourquoi j'ai commencé à étudier la musique? Il y a une réponse simple. J'ai grandi dans une maison bourgeoise où j'ai pris des cours de musique et des cours de danse classique. J'ai commencé l'université et je me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir docteur. J'ai commencé à étudier l'histoire de la musique. Je ne voulais pas commencer à travailler, je voulais continuer à étudier. Et je me suis rendu compte que l'histoire de la musique était quelque chose de logique. Et est-ce que c'est ce qui vous a poussé à aller en France? En fait, c'est l'inverse. Je voulais venir en France et du coup, j'ai trouvé un sujet de thèse qui me ferait venir en France. Et je me suis rendu compte en étudiant l'histoire de la musique, ce n'était pas vraiment cet aspect-là de la musique qui m'intéressait, c'était plutôt l'anthropologie et d'autres sujets. C'est comme ça que j'ai étudié l'histoire de la musique rome en France. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était la perception des Roms à travers leur musique et quel est leur lien avec l'Inde, parce qu'il y a des liens avec l'Inde. Oui, oui, tout à fait. Et en France, j'ai découvert cela, voir que les Roms commençaient à pensaient d'eux-mêmes aussi qu'ils étaient indiens. Ils avaient une identité différente avant, mais cette perception ou ce processus d'acquérir une identité, c'est ce qui m'intéressait. Se dire, est-ce que vous avez écrit pour faire connaître vos réflexions au public ou est-ce que c'était plutôt une vocation d'écrire en soi ? J'ai commencé avec une profession en quelque sorte ennuyeuse, comme on a dit tout à l'heure, devenir ingénieur. Oh, pardon, et après j'ai commencé une deuxième vocation ennuyeuse, entre guillemets, c'est l'économie. Vous auriez pu faire pire, vous auriez pu étudier le commerce. Et après, j'ai découvert la psychanalyse, mais c'était assez tard. Et bien sûr, j'ai écrit aussi beaucoup de dissertations, parce que j'étais très intéressée par l'origine. L'écriture des romans est arrivée beaucoup plus tard, lorsque j'avais peut-être 60 ans. J'ai décidé de m'écarter, d'aller vers Goa, d'aller dans la forêt. Et j'ai commencé à écrire des romans. Je m'intéressais toujours à l'écriture. Et j'écrivais au départ beaucoup de notes de pied de page. J'ai décidé d'arrêter cela et d'écrire un roman en soi. J'avais écrit tellement de dissertations, etc., de choses qui n'étaient pas de la fiction, je savais ce qu'il fallait que j'évite. Et cela m'a vraiment motivé. Mais je vais toujours dans un domaine ou dans l'autre. Est-ce que vous avez eu des patients occidentaux ? Est-ce que votre psychoanalyse aussi a été répandue dans l'Occident ou plutôt en Inde ? La psychanalyse est très orientée vers l'Occident déjà. Beaucoup de gens étaient intéressés par la psychanalyse étrangère en Inde. Donc j'ai des patients Occident à Delhi. Quand j'ai demandé 15 roupies par session, j'ai eu beaucoup de patients étrangers du corps diplomatique, entre autres. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas très heureux. Je suis désolée, mais ça arrive à certains. J'ai eu des patients américains, allemands, et ils payaient bien sûr seulement un dixième de ce qu'ils paieraient en Occident. Donc j'ai eu beaucoup de cas comme ça, des personnes qui viennent en... Un Allemand, par exemple, qui vient en Inde et qui est très intéressé par les esprits et qui donc vient me voir. Dans vos livres, vous parlez beaucoup de sujets indiens qui ont à voir avec l'Inde. Est-ce que vous avez aussi d'autres sujets qui n'ont pas à voir avec l'Inde ? Des sujets qui n'ont pas à voir avec l'Inde ? J'ai écrit dans d'autres lieux que l'Inde, dans mes livres. Les sujets, de toute façon, que j'aborde sont universels. Les personnages, au final, sont moins importants. Oui, c'est ça. Et Manil, vous écrivez sur des sujets qui n'ont pas à voir avec l'Inde, mais dans un domaine très spécifique. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Et pourquoi est-ce que l'ingénierie est ennuyeuse, selon vous ? Ici, vous avez complètement ruiné la réputation des ingénieurs. Voilà ce que j'écris, moi. J'écris une histoire sur un mathématicien dans une conférence où moi-même je suis mathématicien. Je vais juste vous raconter pourquoi j'ai commencé à écrire. C'était en fait pour m'échapper de ma profession de mathématicien. C'était comme une double vie. Et je ne voudrais pas que vous me donniez une étiquette de quelqu'un d'ennuyeux. J'écrivais pour... C'était une échappatoire. Un jour, je me suis rendu compte que je voulais écrire une histoire sur un mathématicien. Et là, je me suis rendu compte des similarités entre l'écriture et... Je faisais partie d'un groupe d'écrivains à Washington à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je voulais écrire sur l'Inde aussi parce que ces deux sujets-là n'étaient pas du tout connus par mon groupe. J'ai voulu écrire, expliquer comment une conférence pourrait avoir lieu en Inde. Et vu que j'écrivais sur un mathématicien, j'ai dû intégrer des petites explications, une sorte de théorie dans mon histoire. C'est très intéressant, votre point de vue sur les mathématiques comme un sujet mal aimé. Vous avez dit que vous liez ce sentiment de le sentiment que les gens n'aiment pas les mathématiques au manque de sentiments. Et vous écrivez sur les mathématiques pour y intégrer des émotions, pour que les gens s'intéressent plus à ce sujet. Oui, c'est comme tout, cela dépend de la façon de présenter un sujet. À Paris, par exemple, vous avez un musée, le laboratoire. C'est un musée qui mélange l'art et les mathématiques. Je l'ai vu à Paris. Mais c'est exceptionnel. Moi, je me suis intéressée à cela parce que, en tant qu'écrivain, j'ai été en quelque sorte formée pour comprendre comment provoquer des émotions, des sentiments chez les gens. L'infini est un sujet très important. Tout le monde a une idée sur l'infini. Il y a quelque chose de mystique autour de l'infini. Lorsqu'on lance un sujet comme celui-ci, on peut provoquer l'intérêt chez les gens. L'infini, est-ce que cela vous fait penser à quelque chose, se dire vous avez abordé beaucoup de sujets mystiques et du point de vue du psyché, comment est-ce que les gens le vivent?
That's why I ask you,
pour moi, je ne parle pas de l'axe du mystique. Nous avons par contre des moments spirituels et mystiques. Et en fait, cela dépend des gens. Certaines personnes ont un lien plus fort avec le mystique, avec peut-être les animaux ou les autres éléments. Il y a des personnes qui sont plus mystiques lorsqu'ils ont plus de compassion. Certaines personnes ont beaucoup de compassion. Ils deviennent en quelque sorte l'autre personne. Mais d'autres ont des moments mystiques et des moments de compassion. Oui, il y a un chapitre là-dessus dans votre livre. C'est très intéressant. La base est la tolérance. Ensuite, on évolue vers la compassion. C'est déjà un bon départ de commencer par la tolérance, être tolérant. Les analystes occidentaux ne parlent pas beaucoup de compassion. Oui, non, ce n'est pas les analystes occidentaux qui sont comme ça. Je ne vais pas vraiment rentrer dans ce débat, mais bon, je vais juste en toucher un mot. Les êtres humains ont le psyché, ils sont êtres sociaux, ils sont des êtres spirituels aussi. Que se passe-t-il dans la psychoanalyse occidentale, dans la psychoanalyse? En général, on parle très peu du cosmos, alors que c'est un élément très important. Moi, je ne crois pas que c'est par le cosmos que nous expérimentons tout. Mais en Inde, toute la partie psychologique dans la psychoanalyse était manquante. Donc, selon les civilisations, les différents éléments de la vie des êtres humains sont plus ou moins importants dans le monde de la psychoanalyse. Mais moi, je pense que l'esprit, le cosmos, est quelque chose qui a été sous-estimé. Maintenant, c'est le corps à qui nous donnons beaucoup plus d'importance. Et ça ne devrait pas en avoir autant, peut-être. Et vos personnages, dans votre livre, sont très très vivant, très actif sexuellement, très en contact avec le mystique. Non, nous ne parlons pas vraiment de ces sujets. Récemment, j'ai parlé des peintures et de la métaphore du lotus qui grandit dans l'esprit mais qui a besoin de lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est l'esprit. Tous les mystiques ont fait cela et se sont rendus compte. On ne peut pas découvrir les secrets du lotus en regardant dans la boue. La boue n'est pas sale, c'est la terre et l'eau. Et nous avons besoin de tous ces éléments pour grandir. Et moi, je pense que c'est la tige là où l'être humain se trouve, la tige du lotus. Nous avons nos désirs dans cette boue. Et parfois, nous mettons, selon les civilisations, l'accent soit sur la boue, soit sur la lumière du soleil, soit sur un autre élément. Vous savez, le mot en sanskrit pour la tige, c'est kunal. C'est mon prénom. Eh bien, voilà. Prita, vous préparez à écrire, vous préparez votre prochain livre. Est-ce que vous basez votre histoire sur des faits réels ? Non, ce n'est pas basé sur des faits réels. C'est un livre du point de vue d'un jeune homme et son père a créé un mouvement utopiste. C'est des idées que j'ai eues. J'ai voulu écrire sur le problème des races en Malaisie. Et oui, ça se passe en Malaisie. Kunal, votre prochain livre, c'est sur la Chine, vous avez dit. Oui, je rentre un peu dans la confusion lorsque les gens me demandent quel est votre nouveau livre. Je pense toujours que c'est celui que je viens de publier. J'ai fini un livre sur la Chine il y a un an. Oui, j'ai donc un roman européen en Chine. Mais celui sur lequel je travaille maintenant, c'est un roman contemporain qui se joue en Inde. J'ai voulu explorer le côté historique des livres, mais c'est une histoire contemporaine.
Vous avez tous démontré la variété de votre...
Vous avez démontré votre patrimoine varié, vos origines variées. Est-ce que vous pensez maintenant, lorsque vous regardez l'Inde et son évolution, quel sentiment avez-vous ? Pensez-vous que c'est une bonne chose que l'Inde devienne si puissante économiquement ? Est-ce que ce sont des choses positives ? Ces changements sont-ils positifs ?
Let me just explain. When we look at power,
je vous explique. Lorsqu'on voit une puissance émergente, en général, nous sommes très heureux qu'un pays devienne puissant. Et en Occident, souvent, nous regardons cette puissance émergente comme un petit peu une mauvaise chose. Ou cela peut faire peur. Que pensez-vous ? Une déclaration comme celle-ci, nous pouvons seulement faire des généralisations. Mais quel est votre point de vue, vous, en tant que personne voyant cela de l'extérieur ? Auparavant, j'allais en Inde tous les ans ou tous les deux ans, et c'était très intéressant parce que je pouvais vraiment remarquer les progrès, voir quelles séries télévisées sont disponibles que nous n'avions pas avant, quand est-ce que le premier McDonald's a ouvert. J'ai vu l'occidentalisation du pays. Et il y a bien sûr des points positifs et négatifs sur cette évolution. Et maintenant, est-ce que l'Inde va suivre la voie des autres pays ? Je ne pense pas, parce que notre population est tellement grande. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, et avec mon dernier roman, donc j'ai dû vraiment m'intéresser à la question de la sécurité entre le Pakistan et l'Inde et les armes nucléaires. La Chine est aussi tout près. Il y a un axe entre la Chine et le Pakistan. J'ai étudié cette question pour mon roman et plus j'ai approfondi ce sujet, plus j'ai discuté avec des gens, plus j'étais horrifiée. La situation est très instable. Entre l'Inde et le Pakistan, cela peut faire peur. Il y aura beaucoup d'attention là-dessus, je pense, dans la décennie qui vient. En France, dans l'ouest de la France, je peux vous dire, si vous voulez être optimiste à propos de l'Inde, je peux vous montrer, vous expliquer beaucoup de choses. Si vous voulez être pessimiste à propos de l'évolution de l'Inde, je peux aussi vous l'illustrer. Nous évoluons, nous allons voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que la mondialisation va tuer l'âme de l'Inde ou est-ce que ça va la mettre en valeur l'âme de l'Inde? Pour moi, c'est la question. Nous sommes indiens, nous devons être optimistes à propos de cette évolution. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de changements émotionnels en Inde. Donc, c'est sûr, nous n'allons pas nous diriger dans une seule direction. Il y a certaines parties de mon pays qui veulent devenir les États-Unis, imiter les États-Unis. Il y a d'autres parties du pays qui veulent s'en écarter. J'espère. Toutes ces différentes directions vont s'harmoniser. Nous sommes ici quatre auteurs qui écrivent tous en anglais, qui sommes tous d'Inde, mais nous écrivons différemment. Nous avons chacun un style personnel. Si nous pouvons vraiment garder cette diversité dans nos pensées, dans notre spiritualité, nous allons avoir vraiment créé une nouvelle civilisation. C'est ce que j'espère. Je ne sais pas si je suis qualifiée pour parler d'Inde. Je suis allée en Inde, en fait, seulement deux fois. Mais je peux parler de notre perception de l'Inde en tant que Malais. Ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin d'être fier de l'Inde. Surtout mes parents, la génération de mes parents, ils sont fiers sans condition. En Malaisie, nous sentons le besoin de dire voilà nous d'où nous venons et c'est mieux que là d'où vous venez. Nous avons une certaine envie de dire cela aux Chinois ou aux Malais. Il y a un certain optimisme, un énorme espoir que l'Inde devient meilleure.
Je crois que là, je parle encore de la mère et de l'épouse. Quand je suis en Inde, je critique librement l'Inde, mais quand je suis à l'étranger, je suis très positif envers l'Inde et je la défends. Donc, puisque je suis à l'étranger, je ne vais pas critiquer l'Inde ici. Je vais rester positif. Mais je pense que je sois complètement d'accord avec Kunal qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne sait pas vraiment. Mais je pense qu'il y a des grandes différences. Par exemple, si on compare l'Inde avec la Chine, par exemple, dans mon domaine de la psychanalyse, ça a commencé dans les années en 1922 en Inde, même avant la France. Il y a à peu près le même nombre maintenant, et l'intérêt augmente pour la psychanalyse. Psychanalyse. En Chine, je suis partie il y a 3 ans, il y avait 1500 psychiatres qui voulaient devenir des psychanalystes. C'est vraiment un marché d'export pour l'Occident, parce qu'en Occident, ça se diminue, donc la plupart des psychanalystes partent en Chine. Donc ils ont un enthousiasme que l'Inde n'a pas encore. Il y a des régions qui pratiquent, mais il y a d'autres choses qui agissent contre. En Chine, je ne vois pas un grand mouvement d'un côté ou de l'autre, donc je pense qu'il y a quand même des différences entre les deux, entre l'Inde et la Chine. Je ne veux pas rabaisser la Chine. Peut-être qu'elle va faire mieux que ce que je pense. Mais en ce qui concerne la civilisation, je pense et j'espère probablement que l'Inde va beaucoup garder d'elle-même. Il y a beaucoup de différences, par exemple, au niveau du mariage. Maintenant qu'il y a le mariage pour l'amour, le style occidental, etc., on montre que les mariages organisés augmentent encore plus. C'est encore plus voulu par les jeunes que pendant ma génération. Donc, ils veulent préserver cette chose de l'Inde même qui est perçue comme étant bonne. Donc, je ne pense pas qu'ils vont être si facilement influencés que ça. Et que maintenant que j'ai été que je me suis impliquée avec Tagore, ça c'est quelque chose que je considère comme c'est son idée de ce genre de combinaison universelle qui deviendra de plus en plus concret que même pendant son époque, parce que mais l'Inde bouge très facilement. Vous avez dit récemment, il y a quelques années seulement, avec votre épouse, Katharina Kaka, vous avez écrit Les Indiens, un portrait portrait d'un peuple. Est-ce que vous pensez que les traits que vous décriviez ont déjà évolué depuis ce temps-là? Non, je ne pense pas. J'ai essayé de voir quelles sont les choses qui sont communes entre toutes les différences qui existent en Inde. Je voulais souligner cela. Je ne sais pas si j'ai eu tort, si j'ai eu raison, mais je pense que en Inde, cet effort augmente parce qu'il y a des forces tellement vers le centre, tellement fort qu'il faut découvrir ce qui tient ces peuples différents ensemble. Et c'est ce que je voulais essayer de faire au niveau psychologique. Il y a des similitudes. Si vous faites des comparaisons par catégorie large entre l'Inde et l'Occident, je pense qu'il y a d'autres domaines qui montrent que ce qui retient, ce qui garde l'Inde ensemble, ce qui est cohésif en Inde, va devenir de plus en plus important que ce qui peut diviser l'Inde, qui existe quand même, de toute façon. J'aimerais vous poser à tous la même question. Est-ce que vous lisez des écrivains indiens et qui? Moi, je lis les œuvres des écrivains indiens. L'un des défis, c'est que dernièrement, j'étais à un festival littéraire à Amsterdam et nous étions autour de la table comme ça, sous l'estrade, sous la scène, avec beaucoup d'auteurs indiens, beaucoup d'écrivains indiens. Et l'animateur pose exactement la même question. Et les écrivains sont des gens très particuliers. Ils ne veulent pas parler d'autres écrivains. Donc, les gens ont dit Dickens tout de suite. J'ai précisé qu'il s'agissait d'écrivains Dickens. Non, mais on peut aussi dire Victor Hugo. Je vous ai écrit, vous. Je vous ai lu, pardon, vous. Je ne peux pas dire que j'ai tout lu de vos livres, mais je pense que ce que je lis en plus, parfois des écrivains, ce que moi je considère comme étant important, c'est des écrivains qui écrivent dans un patois. Parce que le monde voit de plus en plus que les Indiens écrivent en anglais. Mais nous sommes vraiment un petit pourcentage des écrivains et nous ne sommes même pas les meilleurs. Les meilleurs écrivains indiens sont ceux qui écrivent dans leur langue, mais leur œuvre n'est pas traduite. Vous parlez des psychanalystes, mais quand nous grandissions, ils avaient peut-être trois traducteurs du bengali vers l'anglais. Et maintenant, après quelques décennies, il y en a peut-être quatre, c'est-à-dire un de plus. D'accord? Et si vous posez la question à un écrivain indien qui écrit dans sa langue, ils vont dire, mais c'est vous qui recevez toute la gloire. Tout le reste du monde vous voit, mais pas nous. Et c'est un problème de structure par rapport à la traduction. Quelqu'un qui écrit bien, ils veulent écrire leur propre œuvre. Ils ne veulent pas traduire. Donc tous les bons écrivains, par exemple les écrivains de l'Amérique du Sud qui écrivent en espagnol, ils se font traduire très vite dans des autres langues. Donc, nous pouvons apprécier Marquez, non pas parce que nous lisons en espagnol, mais 6 mois après, on peut lire dans d'autres langues. Mais il y a des écrivains indiens vraiment très grands qui ne sont pas lus. J'ai vu un écrivain dehors et je peux vous féliciter parce que c'était un écrivain des plus puissants, qui est beaucoup plus grand que nous tous. Et c'est important de privilégier l'œuvre de ces écrivains. Je veux ajouter une chose. Je pense que vous êtes étonnante parce que vous traduisez d'autres langues, le malayalam par exemple, et d'autres langues. Je suis très fière de l'avoir traduit. Deux écrivains dans cette langue. J'ai vu votre passion pour cette œuvre. Et c'est des gens comme vous qui allez donner cette œuvre de ces autres écrivains au reste du monde. Je voulais dire, pour que vous puissiez prendre la mesure de la traduction vers le français, il y a la table donc dehors avec des livres. Et la personne qui est le propriétaire de la librairie a essayé d'être très exhaustif par rapport à tout ce qui est sorti de l'Inde. Donc tout ce qui n'est pas là n'est pas est en rupture de stock aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir ce que les traducteurs de demain. Moi, j'ai traduit. Vous pouvez voir tout ce que moi j'ai traduit et toutes les œuvres de tous ceux qui interviennent dans ces séances. Ce qui est merveilleux, c'est que juste avant d'arriver ici, nous étions dans l'exposition d'art à Paris, Mumbai. Il y a une table de littérature et je n'étais pas content parce que mon livre n'y était pas. Et les écrivains sont comme ça, vraiment obsédés par eux-mêmes, par leur propre personne. J'étais très bouleversée, mais. Une fois que je suis descendue, ma tension est descendue aussi parce que ici j'ai vu mon livre sur la table. Donc, pour ce, est-ce que vous lisez les écrivains indiens? Oui, en hindi. Je lis en hindi. Et vos préférés, vos écrivains préférés? En hindi, Upendesh Ask. Je ne pense pas qu'il a été traduit. Premchand, oui, a été traduit.
Nirmal
Verma, je pense que c'est l'un des écrivains plus modernes dans les écrits hindi. Mais quand on parle des langues indiennes, je pense que la colère des personnes qui écrivent dans d'autres langues indiennes, leur colère contre les écrivains qui écrivent en anglais, c'est une grande colère. Même quand on n'est pas sur scène, quand on est censé être poli, quand on a bu un peu, on exprime sa colère. Et je pense que cette colère est justifiée. Cette frustration par rapport aux traductions, même les écrivains anglais qui sont traduits en hindi vendent plus que tous ceux qui ont écrit en hindi. 800, 900 exemplaires. Donc beaucoup de ces écrivains commencent à écrire en anglais. Marathi, par exemple, je connais des écrivains en hindi qui commencent dans d'autres langues, qui commencent maintenant à écrire en anglais pour se faire connaître, sinon ça ne va pas se faire. Personne ne veut écrire et que personne ne va lire ces livres. Certains de vos ouvrages ont été traduits vers des langues indiennes. Donc, je répète, certains de vos livres ont été traduits vers d'autres langues, malayalam, hindi, etc. Et Manil, est-ce que vos livres ont été traduits vers des langues indiennes? Non, c'est surprenant. Mais le premier livre a été traduit en sinhalaise. Sinhalaise, c'était la langue du Sri Lanka. Et vous? Non, j'ai résisté à la tentation de faire traduire mon livre en bengali. Dans d'autres langues peut-être, mais en bengali, non, j'ai résisté. Mais en fait, c'est à cause de ma vanité, parce que je pratique je lis dans cette langue. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre traduise mes livres vers cette langue. Mais je ne veux pas traduire mes propres écrits non plus, donc voilà, c'est tombé dans les oubliettes. Prita, oui, je suppose que je suis un peu l'exception, parce que pour Manil, toi Manil, je ne sais pas. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que tu dis que tu parles hindi. Mais moi, je n'écris pas dans une langue indienne. Je lis d'autres écrivains, mais seulement en anglais. Malheureusement. Donc, je crois que Kunal et d'autres disent que c'est les meilleurs écrits qui sortent de l'Asie du Sud sont dans les langues indiennes. Mais ma perspective est différente parce que je suis malais, parce que je viens de la Malaisie. Je ne comprends pas pourquoi l'anglais ne peut pas être considéré comme une langue locale. Mais je pense que l'anglais qui est parlé en Malaisie, c'est une langue locale. Et il y a eu cette question dans les années 50 de la langue nationale. Et toute cette question a été discutée très fréquemment et revient très souvent. Il y a souvent des écrivains en Malaisie qui ne sont pas malais, mais qui choisissent d'écrire en malais. Mais le malais, c'est la langue d'une seule ethnie que le gouvernement a choisie pour être notre langue nationale. Et la langue qui nous unit, c'est l'anglais malais. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une langue locale, mais je pense que c'est notre vraie langue, la vraie langue de notre peuple. Moi, je voudrais venir sur ce qui a été dit sur la colère. Je pense que vous savez que dans la 50e année de l'indépendance de l'Inde, Salman Rushdie a écrit pour le New Yorker. Et il a dit « Rien de significatif a été publié dans une langue locale après l'indépendance. » Voilà, c'est par rapport à la colère. Il y a je pense qu'il y a une collection qui a été publiée. Non, je ne pense pas. Est-ce que vos ouvrages ont été traduits vers le malais? Non, je ne pense pas que ça se fera. Je pense que le marché pour cela est petit. Et les gens qui liraient mon roman vont le lire en anglais, même en Malaisie. J'aimerais ajouter une chose. Si vous regardez le monde, il y a tellement de pays différents qui n'ont pas. Ils sortent les livres dans leur propre langue, mais parfois la traduction est problématique. Et je pense que c'est simplement, c'est pas juste un problème pour les lecteurs ou des gens en Occident qui ne peuvent pas parler ces langues locales ou internationales, mais c'est aussi un problème pour les écrivains. Parce que ça dépend de la taille de l'échantillon. Mais je pense que aller dans donnant, ça aide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait publier quelque chose et traduit, il y a un certain nombre de retombées. Je pense que comme un corps, la langue, je pense que ça, c'est dommage de ne pas traduire. Je pense qu'il y a des livres qui sont très puissants, mais qui ne peuvent pas se traduire. Je ne parle pas de vos ouvrages, mais je pense à cet écrivain, Rahul Bhattacharya, ce jeune qui est Sly Company of People Who Care par rapport à la Guyane. C'est un nouveau roman, et ce serait bien de l'avoir en français. Mais je ne saurais pas comment traduire tout son contenu. Je serais complètement perdue. Il y a des expressions guyanaises. Et je devrais passer 3 ans dans ce pays de la Guyane avant de pouvoir traduire. Et bien sûr, il y a Narata qui ne sera jamais traduit. Quel est le titre? All About Hatta. J.V. Dessany. C'est intraduisible vers le français. Oui, je crois que c'est un problème par rapport à la traduction quand c'est la langue source est une langue indienne. C'est tellement dense. Et c'est presque intraduisible à cause des figures. Mais avec un traducteur professionnel, c'est possible. Oui, mais il faut quelqu'un qui connaît vraiment cette langue. Et il y a peu de traducteurs occidentaux qui connaissent ces autres langues. Donc nous allons parler de ça demain. Prenons l'exemple du chinois. Donc il y a Guo Xinjiang qui habite ici à Paris, et son traducteur est une Chinoise qui habite en Australie, donc qui accède aux deux cultures. Donc c'est difficile d'avoir. Les maisons d'édition chinoises veulent acheter des livres, et mon agent reçoit des appels. Est-ce que nous serions intéressés à vendre? Et ça m'inquiète, parce qu'il n'y a pas de culture de traduction littéraire en Chine en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce corps de mots qui va sortir, cette traduction bizarre qui va sortir? C'est un problème. mais un élément positif par rapport à si les écrivains dans les langues locales peuvent avoir plus de confiance en eux-mêmes, parce que le problème, c'était un manque de confiance en soi, et ça provoquait de la colère. J'en connais beaucoup qui étaient des professeurs d'anglais au Canada. Donc, c'est bizarre. Donc, maintenant, c'est ce manque de confiance que parle. Il ne faut pas être professeur d'anglais pour écrire un livre pour le Canada. Donc, nous allons conclure en disant que nous espérons que tout ce qui est indien sera un jour traduit en français. Si vous avez des questions, peut-être, pour nos quatre écrivains. Est-ce qu'il y a un problème de traduction entre les langues indiennes? Oui. Il y a une fondation nationale par rapport aux livres établie par le gouvernement aux années 60 à essayer de régler ce problème. Donc, ils prendront des livres traduits en hindi pour traduits en bengali. Mais ce projet de traduction n'a pas vraiment abouti. Si ça aboutit, bien évidemment, les personnes qui parlent d'autres langues pourraient les lire, ceux qui parlent ces autres langues pour les lire. Je pense qu'il y a un grand effort qui a été fait, mais c'est toujours trop petit, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs. C'est ça le problème, il n'y a pas de lecteurs. Et traduire d'une langue indienne vers une autre, c'est plus facile, parce que ce n'est pas très difficile. Un écrivain, un Indien, écrit, par exemple, si vous êtes du Bengale, quand vous écrivez directement en anglais, qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Parce que vous pensez, peut-être que vous allez penser en bengali, c'est votre langue, donc c'est peut-être plus facile de lire et écrire. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait d'écrire directement en anglais? Les Indiens sont un peuple un peu bizarre. Moi, j'enseignais l'anglais au Québec. Et mes amis québécois disaient seulement, nous sommes les seuls bilingues du monde, anglais-français. Et je dis, non, vous ne comprenez pas. Être bilingue, ça ne veut pas dire comprendre deux langues et pouvoir les parler et les écrire. Ce qui se passe à cause de les interactions coloniales complexes en Inde, c'est qu'il y a une espèce de bilingue syncrétique qui est bizarre. Quand j'écris, il y a les deux sens qui fonctionnent. Je ne peux pas dire comment, à quel point ça s'exprime bien dans mon ouvrage, mais c'est important pour les deux d'interagir, et ça donne une autre dimension au langage. Je pense qu'il y a souvent un problème. Vous avez raison qu'il y a un problème, parce que les mots et les émotions, peut-être. Quand les mots sont sans émotion, si vous n'avez jamais entendu ces mots avant, mais vous les utilisez, les mots que vous avez entendus pendant votre enfance sont beaucoup plus empreints d'émotion. Et c'est plus difficile, il faut plus d'efforts pour vous décrire dans des mots qui sont détachés d'émotion pour vous. Donc, il y aura toujours une partie de ce problème, une espèce de distance. Mais je pense que les émotions en anglais de ces personnes ici présentes, depuis l'enfance, pour eux, l'anglais a été empreint d'émotions qui peut, je pense, compenser pour tout manquement d'émotions. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de un droit d'écrire en anglais? Mais au fond de vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez quand même exprimer dans votre langue, mais vous ne trouvez pas les mots, ce qui veut dire que vous exprimez en anglais? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de distance entre votre langue et le fait que vous ne puissiez pas écrire complètement? Non, je pense que les mots sont là, les paroles sont là, présentes. Mais ce que je ne peux pas exprimer peut-être, c'est les cris de l'enfant. pour trouver, ben, je pense que tout le monde doit, trouver des mots dans leur propre langue pour s'écrire. Donc je pense que ce n'est pas un problème. Et je pense que écrire, ce n'est pas vraiment la traduction. Quand vous, vous pensez dans une langue, des mots vous viennent. Donc c'est-à-dire que je pense que si vous écrivez en anglais, il y a des mots anglais qui vous viennent à l'esprit. Donc il n'y a pas la frustration de, pouvoir ne pas avoir les mots originaux à ce moment précis. Bonsoir, j'écris en tamoul et je traduis aussi du français vers le tamoul, mais notre sentiment c'est que ceux qui écrivent dans des langues locales, ceux qui écrivent en anglais, nous avons le sentiment qu'ils ne sont pas des Indiens, c'est comme des visiteurs, ils visitent l'Inde et ils écrivent sur l'Inde. C'est notre sentiment, parce que je suis vraiment désolée de devoir le dire, mais pour nous, c'est un fait que nous avons ce sentiment, que vous y allez, mais vous ne connaissez rien sur la communauté indienne. C'est comme des bourgeois. Vous êtes encore, vous avez encore l'influence du peuple anglais et le peuple américain. Vous êtes sous leur influence encore. Je suis vraiment désolée, et je le répète. Donc, ce que vous dites à ce sujet, ce que vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez répondre à c'est cette colère dont vous avez déjà parlé. Je ne sais pas. J'ai déjà dit que je suis un résident non indien, j'ai déjà dit. Mais ici, vous représentez les Indiens. Ça me choque. Non, en fait, c'est une manifestation de modestie de ma part. Mais j'ai quand même vécu 70 ans de ma vie en Inde. Peut-être que je ne connais pas toute l'Inde, mais je connais ma partie. Mais ça veut dire que vous répétez simplement ce que vous avez entendu. Non. Non, je pense que notre écriture est moderne. Je ne sais pas pourquoi on doit se défendre. Nous écrivons de la fiction, nous pouvons écrire ce que nous voulons. Nous écrivons des romans, des histoires. Certaines histoires représentent l'Inde, certaines la Chine. Moi, je ne pense pas même qu'on représente. On ne peut pas dire que les histoires représentent quelque chose. Moi, nous ne représentons personne. Nous écrivons des histoires. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise votre mot bourgeois. Je ne sais pas pourquoi une histoire bourgeoise est moins authentique. Nous pensons que la plupart des gens qui écrivent en anglais, ils viennent d'une certaine sorte de forme de société. Ils ne comprennent pas le système des castes, par exemple. Et la vie quotidienne des Indiens. C'est ça le problème. Parce que vous êtes tellement détaché de cette société. Mais vous savez, comme Manil a dit, il y a toutes sortes d'écrivains. Je pense que dans cette chambre, on a finalement vécu un moment vraiment indien. J'ai simplement une remarque sur la traduction des langues locales vers l'anglais. Mais avant de faire cette remarque, je ne sais pourquoi. Moi, j'ai travaillé 40 ans. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas les ingénieurs. Parce que moi, j'ai travaillé depuis 40 ans ici comme ingénieur et je suis à la retraite. C'est très agréable. Je suis désolée pour cette remarque sur les ingénieurs. J'avais une remarque par rapport au fait de traduire des langues locales vers l'anglais. Juste avant cette table ronde, nous avions une autre table ronde qui concernait des mots sanscrits intraduisibles, juste avant votre arrivée. C'était tellement intéressant, vous voyez. C'est intéressant parce que tout le monde se rend compte qu'il y a certains mots qui sont intraduisibles. Et c'était le sujet de la table ronde. Donc, ma remarque concerne cette traduction des langues locales vers l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui s'attachent, comme vous l'avez dit, à des mots. Donc, si vraiment on devait traduire ça, le traducteur doit être à côté de l'écrivain et faire un glossaire, créer un glossaire. Et ne devait pas hésiter à mettre le mot local exact. Ne devait pas hésiter à insérer dans le texte le mot dans la langue locale et mettre un glossaire à la fin. Quel est votre avis? Comment répondre? Je pense que tous les cas de figure sont possibles. J'ai traduit beaucoup de livres où j'ajoute un glossaire si l'éditeur est d'accord, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Mais dans certains cas, je ne vais pas rentrer tout dans la théorie de la traduction, mais il y a un point important, c'est la compensation. Nous ne pouvons pas traduire tout de manière complètement précise, mais si vous vous retirez en vous-même et vous vous oubliez dans la mesure du possible, et si vous écoutez, la voix de l'écrivain, petit à petit, vous allez l'entendre lui, qui parle en français. Ça, c'est l'idéal. Nous n'allons pas l'éteindre complètement. Personne n'est parfait. Et il y en a qui sont moins parfaits que d'autres. Mais l'idéal, c'est que l'écrivain parle finalement. Si finalement il parlait français, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il était français? Et ça fait partie des grandes questions de la traduction. Donc, quand vous n'avez pas de réponse à cette question, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est garder le mot dans la langue locale et faire un glossaire. Si vous pouvez faire quelque chose, ça peut être soit une traduction directe ou une traduction de compensation, parce que, par exemple, il y a des figures qui sont intraduisibles, mais plus tard, peut-être que vous allez trouver une figure dans votre propre langue que lui, il aurait dit s'il était français. Donc, la traduction est un processus très complexe, mais votre remarque fait partie de la problématique de la traduction. Mais on ne rencontre pas toujours les mêmes problèmes. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. C'est un autre moment indien. Bon, j'offre un autre moment indien, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas une question. Je suis venue d'Allemagne en partie parce que je voulais, non seulement, mais en partie parce que je voulais écouter pour savoir comment une table ronde est conduite en français. Et je me suis bien amusée. J'adore écouter les écrivains, leurs opinions. Comment vous racontez vos impressions sur l'Inde. C'est très différent de notre manière de faire en Allemagne. J'ai beaucoup apprécié le livre de Manil, parce que pour moi, comme quelqu'un qui vient de Delhi, qui a grandi en Delhi dans les années 60, c'était vraiment magnifique de comprendre la ville de Bombay par le livre de Manil. Mais ce qui m'a intéressée, c'était au fait, c'est peut-être mon éducation allemande, c'était cette question, l'Inde, par les écrivains qui viennent de l'Inde. Et je trouve qu'il y a un manquement, cet aspect de l'Inde vu par des écrivains indiens. Je suis peut-être un peu déçue, si je puis dire, dans ce que dit Manil, c'est prémonissant que l'Inde et le Pakistan pourraient être une proposition à risque. De par l'avenir, moi, je pense avoir appris que c'est l'attente des écrivains indes par rapport à l'Inde est vague. C'est un mélange d'espoir et d'horreur, mais ce n'est pas vraiment fondé, je crois. Je n'ai pas vraiment appris. J'aimerais répondre. Si nous mangeons ensemble ce soir, si nous dînons ce soir, je peux vous donner beaucoup de détails concernant mes vues, mes opinions sur l'avenir de l'Inde. Et ce sera la même chose pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et nous pourrions peut-être enlever une certaine partie de ces aspects vagues. Mais dans cette session, nous pouvons simplement donner un résumé de nos impressions dominantes. ce n'est pas une table ronde qui nous permet de faire de la prosélytisation pour expliquer aux gens c'est notre avis sur l'avenir de l'Inde. L'autre aspect, c'est une remarque à côté, c'est que la fiction concerne l'imagination. L'imagination et l'imaginaire ne doivent pas vraiment être réalistes. Si vous voulez écrire des choses réalistes, vous pouvez lire des choses réalistes, vous pouvez lire autre chose. La fiction, les romans, concerne le fait de décoller dans votre imaginaire pour aller ailleurs. Et si quelqu'un veut nous accompagner sur ce voyage, c'est magnifique. Mais s'il y a d'autres lecteurs qui ne veulent pas faire ce voyage, ça va. Le sujet ici n'est pas vraiment dire voilà ce qui va se passer en Inde. C'est mon avis sur l'avenir de l'Inde. Personne ne peut prédire l'avenir. Et ceux qui pensent le faire se trompent. Il y a cette expérience. Il y a beaucoup d'approches différentes à cette bête mythique qui est l'Inde. Et c'est le but de la fiction, c'est le but de l'art. Ce n'est pas de donner une réponse définitive, mais de donner beaucoup de réponses dans beaucoup de sens différents pour que vous puissiez lutter avec ça, pour dire mais avec quelle réponse est-ce que je me sens à l'aise, avec lesquelles je ne me sens pas à l'aise. Ça, c'est notre travail. Notre travail n'est justement pas de donner des réponses définitives. Si c'était notre travail, alors nous serions beaucoup plus riches. Je veux ajouter un aspect. Si vous regardez les choses d'un point de vue de la statistique, il y a beaucoup de résultats possibles et avec des niveaux de probabilité variés. Certains ne sont pas du tout probables. Donc le travail des écrivains n'est pas de dire, voilà, une possibilité. Une possibilité pour notre travail serait simplement de faire le miroir à la réalité et ne parler simplement des choses très probables. Mais le travail de la fiction, c'est de vous amener dans des situations qui sont peu probables et de parler des résultats possibles qui ne reçoivent peut-être pas l'attention qui devrait. Et il y a peut-être des réponses possibles auxquelles on n'a pas suffisamment pensé. Et je pense qu'en tant qu'écrivain de fiction, c'est mon travail d'attirer l'attention des gens sur des résultats peu probables. Parce que l'effet de ce résultat pourrait être tellement grand. Est-ce que ça mérite réflexion? Donc l'attente et la probabilité fois l'effet, multiplié par l'effet. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, c'est une question pour Dominique.
Pensez-vous qu'il soit possible pour un traducteur de traduire la littérature indienne sans être allé en Inde, sans avoir vécu en Inde? Pouvez-vous imaginer être assis à Paris et adorer tous ces livres, tomber amoureux des écrivains et vouloir les traduire sans être allé en Inde, sans connaître la diversité de l'Inde? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que moi-même, toute mon histoire est mélangée avec l'Inde. L'Inde est impliquée dans ma vie et ma profession de traductrice vient aussi du fait que je suis allée en Inde. Tout mon moi est lié à l'Inde. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que certains esprits sont plus dirigés vers la musique des mots. Donc cela, je dirais que cela dépend, mais j'espère que c'est possible. J'ai lu de très bonnes traductions d'ouvrages et je ne connaissais pas forcément l'histoire des traducteurs eux-mêmes. Donc, je dirais peut-être. Oui, bien sûr, c'est une question qui, pour vous, ne peut pas être vraiment objective, à laquelle vous ne pouvez pas répondre de façon objective. Mais je connais l'Inde, oui, donc effectivement, c'est difficile d'y répondre. J'aimerais juste intervenir sur le commentaire que nous avons entendu. Je suis critique littéraire française, plutôt dans des magazines, et j'ai vu, depuis les années 80, j'ai eu beaucoup de débats comme celui-ci. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs français. Et je pense à un écrivain Marguerite Duras. Et vous, en tant qu'Indien, vous devez savoir ce que je veux dire lorsque j'évoque ce nom. Et vous devriez avoir ensemble un débat avec Marguerite Duras ou avec des écrivains français, peut-être moins connus qu'elle. Les écrivains français parleront de la situation dans le monde. Pour moi, ça a été passionnant de voir que tous les quatre, vous étiez d'accord que vous ne pouviez pas parler de la situation de l'Inde et non pas du monde. En fait, vous n'aviez pas vraiment une voix, une autorité sur le sujet. Vous tous, vous aviez dit, en tant qu'écrivain, je ne peux pas parler de mon pays, en tout cas des choses définies. Vous pouvez en parler. Mais vous n'allez pas vraiment dans le détail devant ce public. C'était pour moi fascinant de voir la différence de votre manière littéraire, si j'ose dire. En fait, votre façon d'être écrivain est différente, très différente des écrivains français depuis les années 70, je dirais même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu Sartre qui parlait d'engagement, qui était engagé. Donc votre manière d'être est vraiment différente, je dirais, des écrivains français. Prita, vous avez dit vous habitez à Limoges, donc vous rencontrez des écrivains français. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je l'ai dit. Nous, peut-être, parlons pas comme des spécialistes de l'Inde. On a l'impression que vous ne vous autorisez pas à parler de votre pays, de la politique et de la situation. Je ne dirais pas cela, non. Une chose qui est claire lorsqu'on est né en Inde et on grandit en Inde, nous reconnaissons que notre pays est divers, non seulement sa géographie, mais aussi les points de vue, les opinions. C'est pour cela que les Indiens se disputent autant, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et pour les personnes sensibles, ceci donne vraiment l'impression de tolérance pour la diversité. Je ne dirais pas que j'ai peur d'exprimer ce que je pense de l'Inde ou du futur de l'Inde. Mais devant d'autres écrivains indiens, je dirais que pour vous, la valeur que vous allez en retirer, c'est d'écouter notre diversité. Je ne dirai jamais que la personne à côté de moi a tort ou que j'ai raison. Je pense que la France n'est pas aussi hétérogène que l'Inde. C'est pour cela que nous reconnaissons bien plus la diversité et nous la respectons beaucoup plus. Ce n'est pas pour ça que quand nous avons un point de vue, nous n'allons pas l'argumenter. Bien sûr, nous le faisons. Mais je dirais que nous avons peut-être une différente façon de nous exprimer parce que nous avons chacun des points de vue différents. J'aimerais juste dire une chose. Pour moi, c'est vrai en général ce que vous avez dit. Nous ne voulons pas donner de réponse d'autorité parce que je pense qu'il y a une certaine pression sur les écrivains qui viennent d'ailleurs que de l'Occident de représenter leur pays. Et ceci comporte une certaine pression. Si un écrivain asiatique, par exemple, il y a toujours quelqu'un qui va se lever et dire « Pourquoi vous ne parlez pas de la communauté portugaise ou telle minorité aux États-Unis » Imaginez, si on pose la même question à Ian McEwan, on lui demande « Pourquoi vous ne parlez pas de la communauté juive à Londres ?» Nous ne représentons pas vraiment notre pays. Nous résistons à cette tendance. Nous ne pouvons pas donner un argument d'autorité sur le pays. Nous écrivons de la fiction. Nous posons plus des questions que nous donnons de réponses. Oui, c'est vrai, vous êtes des représentants, mais nous ne devrions pas le penser de cette façon. Moi, parfois, je donne un discours et je montre une carte et j'explique. C'est une carte de la Finlande, c'est l'opposé, complètement opposé à l'Inde. Je disais, je suis allée en Finlande et nous mangeons un déjeuner. Et j'essayais de faire parler les gens autour de la table, essayer de créer un débat. Je parle de l'avortement, de l'homosexualité. Et ce qu'il se passe, c'est qu'ils arrêtent tous de parler. Une personne répond et ensuite tout le monde recommence à manger. Ils avaient une seule voix. Et moi, venant d'Inde, je ne croyais pas ce que je voyais.
Je crois qu'on va arrêter là parce que le film de Vijay Singh va suivre dans peu de temps. Bon. Et puis de toute façon, demain, vous aurez encore le plaisir d'écouter ces quatre auteurs demain après-midi en duo. Donc on aura encore plus le temps d'aller plutôt au cœur de leur œuvre. Donc voilà, je vous invite à revenir demain pour les écouter encore. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre. Merci Dominique.
Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci.